Jean Madeline, Monsieur Chef d'Or. La petite ville était fière de sa ceinture de boulevard, des marronniers de l'esplanade et des ruines d'un aqueduc romain. Elle était fière de son régiment de hussards et de sa société polymathique. Mais elle était fière surtout de la collection de Monsieur Cheldor, ancien greffier du tribunal. Cette collection était en vérité remarquable. On y voyait des vieilles faïences, des masques japonais, des médailles et des cailloux. On y voyait une reproduction en carton de la cathédrale de Reims. On y voyait aussi un casque de bavarois ramassé en 1870 sur le champ de bataille, un clou de la bombe de Vaillant, et une petite fiole contenant un peu de fumier parfumé de Trianon. M. Cheldorf appelait spécialement l'attention de ses visiteurs sur le squelette d'un guerrier gaulois revêtu de ses armes et sur une petite pièce de monnaie très rare portant l'effigie de l'impératrice Fausta. M. Cheldorf considérait que c'était là les deux plus beaux morceaux de sa collection. Mais M. Cheldorf se trompait. La pièce la plus curieuse de sa collection, c'était lui-même, M. Cheldorf. C'était un petit homme gras et luisant, aux approches de la soixantaine, dont les cheveux onctueusement lissés étaient teints avec beaucoup de soin. Il portait des petits favoris taillés courts sur les joues, qui mettaient en valeur son nez plongeant et ses lèvres lipues. Ses menus yeux gris frétillaient derrière des lunettes à branches d'or. Toute sa personne marquait une imposante satisfaction. Mais ce n'était point par là que M. Cheldorf était un homme extraordinaire. C'était par sa parole. Son langage était toujours abondant et choisi. Sa conversation était une conférence par les nobles périodes où elle se déroulait et par l'unité où elle savait se maintenir. Car elle ne se fractionnait pas en mots et par en mus épisodes, comme c'est l'habitude dans les salons modernes, où les paroles légères sautillent autour des tasses de thé, se posent pour becqueter une miette de biscuit et s'envolent pareil à des moineaux furtifs. Non, M. Cheldorf abordait un sujet et ne le quittait plus d'une heure. Il ne l'aurait pas quitté de tout le jour, car il ne s'épuisait ni se fatiguait jamais. Mais ses auditeurs se fatiguaient beaucoup. Il aimait généralement traiter de sujets scientifiques, où sa compétence était reconnue et où il apportait des vues originales. C'est ainsi qu'il racontait comment il avait découvert des squelettes de poissons dans des blocs de rochers extraits du sommet d'une montagne. La chose, pour être curieuse, s'expliquait selon lui par ce fait que quelques secousses préhistoriques avaient transporté du frais de poisson en hors de cette montagne où il était ensuite éclos. M. Cheldorf paraissait aussi volontiers de lui-même et racontait magnifiquement les aventures auxquelles il se persuadait avoir été mêlé. Était-il question de la révolution de 1848, il évoquait aussitôt le rôle qu'il y joua et comment, par quelques phrases heureusement placées, il avait arrêté une bande hurlante d'émeutiers, lesquels avaient ensuite, jusqu'à la fin des troubles, monté spontanément la garde autour de sa demeure. Il ne manquait pas de l'escorter à chacune de ses sorties pour qu'il ne lui fût fait aucun mal. M. Cheldorf terminait immanquablement ce récit par ces mots. « Car les Français, peuple léger mais généreux, ont toujours été sensibles au prestige de l'éloquence. » Et il racontait cela avec une telle conviction chaleureuse que ses auditeurs oubliaient, et qu'il oubliait lui-même, qu'à l'époque en question, il avait à peine 10 ans. Venait-on à prononcer le nom de Napoléon III, M. Cheldorf exposait qu'en 1867, le souverain de passage dans la région l'avait mandé et désireux de faire sa connaissance et que, dans cette entreprise, assis tous deux dans un petit salon vert peluche que M. Cheldorf se plaisait à décrire, après que l'empereur eut dit à ses officiers l'ordonnance « Retirez-vous, messieurs, je désire causer avec M. Cheldorf. » Il avait dévoilé à son auguste interlocuteur les visées futures de la Prusse, dont le roi venait alors aux Tuileries et embrassait son cousin. Elle avait respectueusement prévenu de la tourmente invisible derrière le décor de l'armée triomphale, mais que lui, M. Schelfdorf, voyait se préparer à l'horizon. « Sire, lui ai-je dit, en le regardant dans les yeux, il y a de lourds nuages vers l'est. » « Oh, vous avez peut-être raison, M. Schelfdorf, » répondit l'empereur en me serrant la main. Puis il reprit son air indifférent et là, et alluma une cigarette. Ce tableau est resté là, fixé dans ma rétine, comme se photographie dans celle des victimes l'image de leur assassin. Et M. Schelfdorf continuait. « Oh, si l'empereur m'avait écouté, on entendrait encore le cri des sentinelles françaises autour de la cathédrale de Strasbourg. » Quand il disait ces choses, M. Schelfdorf ne mentait pas. Ou du moins, il n'en avait pas conscience. Il se laissait prendre au mirage de ces nobles périodes. C'était le Tartarin de la phrase. M. Schelfdorf était ainsi parvenu à se créer dans la ville une notable réputation. On ne le croyait pas toujours et on s'ennuyait quelquefois de l'entendre. Mais on ne pouvait pas nier qu'il ne sut discourir à l'improviste et plusieurs heures durant sur n'importe quelle question. Et l'on considérait qu'il était doué d'une érudition universelle. De plus, la renommée de sa collection avait dépassé la ceinture des boulevards grâce à l'assurance sonore de son propriétaire qui menait grand bruit autour de ses moindres trouvailles. Il ne passait guère un étranger par la ville que M. Schelfdorf trouva le moyen de l'agripper et de l'entraîner visiter sa Fausta et son guerrier gaulois revêtu de ses armes. Aussi eût-il été bien extraordinaire que M. Schelfdorf ne fît pas partie de la société polymathique. Eh bien, M. Schelfdorf en faisait partie. Il était même un des membres les plus éminents et le plus éminent à son sens. Cette société polymathique entretenait dans la petite ville le culte des belles-lettres, des sciences et des arts. M. Schelfdorf, dont les découvertes étaient innombrables dans les divers domaines, y faisait de fréquentes et curieuses communications. Il advint que, cette année-là, la société polymathique émit un vœu tendant à ce que l'un de ses membres fût honoré des palmes académiques. Elle estimait que cette distinction serait une preuve précieuse de la bienveillance du gouvernement à l'égard de la compagnie tout entière. Et sans qu'aucun candidat fût mis personnellement en avant, quelques sympathies se manifestèrent pour que la violette ministérielle fleurît à la boutonnière de M. Quatrevent. Ce M. Quatrevent était un grand garçon d'une quarantaine d'années, taciturne, maigre, un peu farouche, et qui avait tellement de poils sur la figure qu'il était impossible de savoir s'il était triste ou gai. Possesseur de quelques fortunes, il s'employait uniquement à cultiver son esprit. Après s'être abandonné avec ardeur à la philosophie, puis à l'histoire, il s'intéressait actuellement aux questions d'ethnographie et d'archéologie. En ce moment, il était fort préoccupé par une pierre qu'il avait trouvée un mois auparavant dans une vigne voisine de la ville, auprès de la fontaine Sainte-Eustase, laquelle était le dernier vestige d'un ancien couvent détruit pendant les guerres de religion vers 1570. M. Quatrevent étudiait avec attention cette pierre, dont l'inscription, formulée en caractère étrange et à demi effacé, le tourmentait beaucoup. Et il s'attachait avec obstination à vouloir en déchiffrer l'énigme. M. Schelfdorf ne pouvait manquer d'être très offensé que ses collègues de la société polymathique eussent manifesté une préférence pour M. Quatrevent à l'occasion des palmes académiques. Car, en outre qu'il désirait fort cette distinction pour lui-même, M. Schelfdorf considérait que M. Quatrevent était son adversaire. Un adversaire qu'il méprisait, d'ailleurs, car leur caractère était entièrement différent, ainsi que leur méthode. M. Schellfnor parlait de tout avec une assurance imperturbable. Qu'il y ait une épidémie dans la ville, une difficulté diplomatique en Orient, ou un cyclone dans une île de l'océan Pacifique, M. Schellfnor expliquait aussitôt les causes, avec une certitude sereine et une originalité incontestable. Il ne disait jamais « je crois que, il me semble ». Son diagnostic revêtait la forme de l'absolu. De même, M. Schellfnor faisait à chaque instant des découvertes extraordinaires, car rien de ce qui lui advenait ne pouvait être indifférent. Trouvait-il un anneau dans son jardin ou un ossement au cours d'une fouille, son imagination aussitôt était en mouvement. Elle en reconstituait rapidement l'identité et lui attribuait toujours des origines merveilleuses. L'anneau était une de ces alliances de cuivre rouge que les femmes d'Éthiopie donnaient à leurs amants, ce qui indiquait que l'un d'entre eux était venu par la suite se retirer sur ce point de la Gaule, où il avait été enseveli. Quant à l'ossement, il ne pouvait, en raison de sa forme et de ses dimensions, que provenir d'un mammouth antédiluvien, qui était jadis descendu des plateaux de la Sibérie jusqu'au jardin de M. Schellfnor. Une fois conté de la sorte, l'histoire était fixée. M. Schellfnor la répétait par la suite en termes immuables. Et il était d'une parfaite bonne foi. « Ce matin, vers 6 heures, comptait M. Schellfnor, j'étais à ma fenêtre. Je contemplais le spectacle toujours impressionnant que nous offre le lever du jour. Quand un léger coup de vent vint déposer quelques grains de sable sur le rebord de ma croisée, j'examinai un de ces grains de sable, je le sentis et je poussai l'exclamation. Il n'y avait pas à douter, c'était du sable du Sahara. » Il apparaît par ces divers exemples que M. Schellfnor était un intuitif. M. Quatrevent, son adversaire, n'avait pas la même facilité. Il mettait plusieurs mois à étudier une question et plusieurs années à l'élucider. Il ne donnait pas volontiers son opinion, et encore ne l'émettait-il généralement qu'avec des réserves et des hochements dubitatifs. Aussi M. Schellfnor ne pouvait-il que tenir en piètre estime l'érudition incertaine de M. Quatrevent. Et puis, il y avait une autre raison de l'inimitié de M. Schellfnor à l'égard de son adversaire. Quelques années auparavant, M. Schellfnor avait habilement répandu par la ville le bruit du mariage de M. Quatrevent avec sa demoiselle. Mais cette tentative n'avait pas amené le résultat espéré. C'est en vain que l'on avait attendu la déclaration de M. Quatrevent. Car M. Schellfnor avait une fille qui habitait avec lui dans l'antique maison de la rue des Briquettes. Mademoiselle Clémence n'avait point le charme. Elle était sèche et jaune, guettée par la trentaine. Ses yeux ne pouvaient même pas être comparés à des violettes fanées. Son visage n'avait jamais fleuri. Et pourtant, elle se sentait embrasée par une grande ardeur d'amour. Depuis sa mésaventure avec M. Quatrevent, Mademoiselle Clémence haïssait les hommes. Mais elle leur souriait. Elle souriait surtout aux officiers des hussards qui se promenaient à l'heure de la musique sous les marronniers de l'esplanade. M. et Mademoiselle Schellfnor ne manquaient jamais les après-midi de jeudi et de dimanche d'aller s'asseoir sur l'esplanade, car M. Schellfnor était versé dans la musique, comme dans toutes les autres manifestations de l'esprit. Et tandis qu'il chantonnait et battait discrètement la mesure, Mademoiselle Clémence se consumait en œillades brûlantes vers les officiers qui passaient, sveltes et claires, devant les chaises féminines. Mademoiselle Clémence n'obtenait guère de réponse satisfaisante à son jeu de prunelle. Mais elle ne se décourageait pas et n'en continuait pas moins de s'élancer vers la fenêtre, aussitôt que sur le pavé de la rue des Briquettes sonnait le pas d'un cheval. Durant que sa fille se livrait à ses exercices, M. Schellfnor songeait aux moyens d'amoindrir la candidature de M. Quatrevent et de fortifier la sienne. Cependant, M. Quatrevent, en considérant avec attention la pierre qu'il avait découverte auprès de la fontaine Saint-Eustase, avait cru distinguer dans l'inscription des formes de lettres hébraïques, et il s'était mis à apprendre l'hébreu. Monsieur le chef du cabinet du préfet était en train de jouer au bilboquet dans son bureau de compagnie avec monsieur le conseiller de préfecture, quand l'huissier vint lui demander s'il pouvait recevoir monsieur Schelfdorf. « Oh bien, mon vieux, dit le conseiller de préfecture, je vous souhaite du plaisir. Moi, je me trotte. » Car le conseiller de préfecture, qui habitait la ville depuis près de 3 ans, connaissait à fond monsieur Schelfdorf. Mais le chef de cabinet, arrivé depuis peu, en même temps que le nouveau préfet, ne le connaissait pas encore. Il en avait entendu seulement beaucoup parler. Aussi sa curiosité fut-elle mise en éveil. Et il dit à l'huissier, « Faites entrer, monsieur Schelfdorf. » Monsieur Schelfdorf entra en saluant profondément. Sa visite était stratégique. Il s'était dit que puisque M. Quatrevent, candidat aux palmes académiques, avait pour lui la société polymathique, lui, M. Schelfdorf, serait bien plus malin d'avoir pour lui la préfecture. Seulement, il n'était pas en relation avec ces messieurs. Était-ce qu'il fut suspect au point de vue politique? Était-ce qu'il fut considéré comme d'un rang médiocre? Toujours est-il qu'il ne figurait pas sur la liste que les préfets se transmettaient et qui fixait leurs relations mondaines. Aussi, le nouveau préfet, à l'exemple de ses prédécesseurs, avait-il négligé de lui faire visite. M. Schelfdorf, jusqu'à présent, n'avait point fait de tentative pour remédier à cet état de choses, dont il était pourtant ulcéré jusqu'au moelle. Mais il s'en expliquait en disant qu'il est de bon ton de ne pas avoir la préfecture. Et ils étaient ainsi demeurés drapés dans sa dignité jusqu'à ce jour où, jugeant qu'il était utile de se rapprocher du préfet et de le mettre dans son jeu, il jeta résolument de côté toute fausse vergogne, comme il sied au caractère véritablement énergique, et se décida à faire des avances. Seulement M. Schelfdorf, qui était versé dans les sciences de la guerre comme dans toutes les autres, n'ignorait pas qu'auparavant, d'enlever une place, on doit faire des travaux d'approche. Et c'est avec cette même pensée de tactique savante que, cet après-midi de juin, giloté de piquet blanc, ganté de fil clair, ses cheveux noigneusement lissés et teints de fin frais, M. Schelfdorf s'en venait présenter ses devoirs à M. le chef de cabinet du préfet. M. le chef de cabinet avait 22 ans. C'était un petit jeune homme blond à l'aspect tout à fait juvénile. Mais M. Schelfdorf ne considérait pas que sa soixantaine pût être humiliée de se montrer très respectueuse à l'égard de ce jouvenceau. M. Schelfdorf s'inclina donc profondément à la manière du grand siècle qu'il avait adopté. Puis, sur un geste aimable de M. le chef de cabinet, M. Schelfdorf s'assit dans un fauteuil de reps vert et il causa. Monsieur le chef de cabinet fut d'abord amusé. Il ne saisissait pas du tout l'objet de la visite de Monsieur Schelfdorf. Mais au contact de cette faconde intarissable et pittoresque, il lui parut qu'il prenait un bain de paroles. Et cela lui sembla une image ingénieuse. Mais Monsieur Schelfdorf continuait toujours. Ces périodes s'enroulaient autour de M. le chef de cabinet, l'enveloppaient, le submergeaient, amples et lourdes comme des vagues. Elles le prenaient dans un tourbillon dont il ne pouvait pas se dégager. Et alors M. le chef de cabinet vit le danger. Il fit des efforts pour se débattre, pour échapper au gouffre. Mais les vagues retombaient sur lui, l'étreignaient irrésistiblement, et il dut renoncer à l'espoir du salut. « Oui, monsieur le chef de cabinet, disait monsieur Schelfdorf, j'ai toujours été préparé à prendre la parole dans n'importe quelle circonstance et sur n'importe quel sujet. Et cela me rappelle une petite aventure qui m'advint voilà quelques années. Je me promenais, après déjeuner, à Paris, dans les jardins du Trocadéro, en fumant un excellent cigare, quand je m'arrêtais par hasard devant une affiche jaune placardée contre un pilier de la galerie qui décore ce gracieux monument. Je ne néglige aucune occasion de m'instruire, monsieur, et je lis toujours les affiches. Et que vois-je sur celle-ci ? Aujourd'hui, à 2 heures, dans la salle du Trocadéro, conférence par M. Chevenor sur l'homme primitif. Par M. Chevenor ? Oui, monsieur, par moi-même. Oui, j'avais accepté de donner ce jour-là une conférence, et, il se frappait le front, j'avais complètement oublié. La conférence était annoncée pour 2 heures. Je regardais ma montre. Il tirait sa montre. 2h05. Il n'était pas possible d'hésiter. J'entrais, n'ayant aucunement préparé mon sujet, ne sachant nullement ce que je pouvais dire. Il y avait dans la salle 800 à 900 personnes qui attendaient l'orateur. Il fallait que ce public nombreux et élégant eût à 2 heures sa conférence sur l'homme primitif, faite par M. Chevenor. Un autre aurait peut-être perdu la tête. Moi, pas. Je prends mon parti, je monte sur l'estrade, je me recueille une minute et je commence. Je débutais, je me rappelle par ces mots. Et ici, M. Chevenor, qui était doué d'une mémoire prodigieuse, récitait pendant environ 3 quarts d'heure sa conférence sur l'homme primitif. À mesure que je parlais, je me sentais en pleine possession de mon sujet et de ma parole. Et je sentais aussi mon public, ce public d'élite, palpiter sous la pression de mon geste, de ma voix. Ah, monsieur, quelle jouissance ! Je n'aurais jamais éprouvé de pareil. Une jouissance, comme si les rois, ni les empereurs, ni les présidents de République n'en ont jamais connu. J'aurais voulu mourir à ce moment. Oui. Il ferma les yeux. Mourir comme le soldat victorieux, enveloppé dans les plis de son drapeau. Je parlais ainsi 3 heures durant, sans une défaillance, sans une faiblesse. Bon, l'auditoire était pris aux entrailles. Il m'acclamait. Et quand je sortis, monsieur, toute cette foule enthousiaste m'entoura, me fit la conduite, tel Socrate sortant du jardin d'Académus. 5 heures sonnaient. Monsieur le chef de cabinet regardait avec détresse du côté des fenêtres, se demandant comment il pourrait s'évader vers le cercle. Mais Monsieur Chevenor ne faisait pas mine de bouger. Il continuait sa conférence. Seulement, contrairement à son habitude, il variait ses sujets. Quelle belle fonction que la vôtre, monsieur le chef de cabinet! Vous paraissez être auprès de monsieur le préfet comme le confident de la tragédie classique. C'est auprès de vous qu'il s'épanche, et vous êtes vous l'intermédiaire entre lui et ses administrés. Que de services vous pouvez rendre de part et d'autre. Connaissant monsieur le préfet à fond, sachant choisir la minute propice, vous pouvez lui présenter les affaires sous un certain jour pour amortir cet angle, mettre en valeur ce reflet, pour le plus grand profit de tous. Ah, monsieur, avec votre intelligence et votre tact, vous êtes fait un souhait pour une si délicieuse mission. Car j'ai la prétention de connaître les hommes, monsieur, et dans les quelques instants d'entrevue que vous me faites l'honneur de m'accorder, permettez-moi de vous dire que j'ai déjà jugé votre valeur. Monsieur le chef de cabinet regardait avec un accablement croissant le soir descendre derrière les fenêtres. Décidément, il ne pourrait pas aller au cercle faire sa partie de Rubicon ce soir. « Je n'osais pas venir vous voir, » continuait imperturbablement Monsieur Chevenor. « Vous savez, des scrupules, la crainte de vous déranger. C'est ma fille qui m'a poussé. » Et vous avez aperçu à la musique. Et elle m'a dit, « Mais si, petit père, va donc, il a l'air si aimable, ce monsieur, si bon, si accueillant. » Alors, bon Dieu, je me suis décidé. Et je vois maintenant comme ma fille avait raison. « Tiens, tiens, » se dit monsieur le chef de cabinet, tout à coup émoustillé. « Mais ça devient intéressant !»« Et si vous vouliez me faire le grand honneur, et permettez-moi d'ajouter le grand plaisir, de venir visiter ma collection, il n'y aurait certainement pas que tout le monde vient visiter ma collection. Les étrangers de marque n'y manquent pas. Quelques-uns même s'arrêtent dans la ville tout exprès. De même que certains peuples anciens des rives de l'Euphrate ont été anoblis lorsque le roi vous regardait, je puis dire qu'elle a été consacrée par d'augustes regards. Et puis vous-même, monsieur, demain, voulez-vous ? C'est cela, demain, à 3 heures. Ma fille et moi serons fort heureux de vous recevoir. » Monsieur le chef de cabinet ne put pas faire son Rubicon ce soir-là. Il ne retrouva son ami le conseiller de préfecture qu'à la pension, devant le rôti de veau immeuble. Il lui raconta la visite de monsieur le chef d'or et son invitation. « Ah, il a donc une fille ? » demanda-t-il. « Comment est-elle ? » « Oui, mon cher, » répondit le conseiller de préfecture, « délicieuse !» Dès lors, le petit Lagrange, le chef de cabinet du préfet, fut couvé avec beaucoup de sollicitude par M. et Mlle Scheldorf. On l'assirait, on le cajolait, on l'entourait. On lui envoyait des gravures pour décorer son cabinet et des fleurs pour le parfumer. On ne mangeait pas un plat fin à la rue des Briquettes, sans qu'il y fût aussitôt convié. Et c'était « Mon cher monsieur Lagrange, par-ci, monsieur Ernest, par-là, flatté, flûté par la voix veloutée de monsieur chef d'or, la voix dont il apaisait les révolutions et prenait les foules aux entrailles ou par le soprano sentimental de mademoiselle Clémence. Mais le père et la fille avaient à son endroit des visées différentes. Le petit Lagrange se laissait faire un peu parce que ça l'amusait, un peu parce que cela le changeait du rôti de veau de la pension, dont il commençait à être fatigué, et un peu aussi parce que, très jeune, il ne savait pas bien se dégager de cette amabilité enveloppante. Il se laissait donc accaparer à la musique sous les marronniers de l'esplanade. Il se laissait amener à la rue des Briquettes. Il subissait les conférences de M. Chef d'Or et les mérites de la Fausta, non plus que du guerrier gaulois revêtu de ses armes, n'avait plus de secret pour lui, et il subissait avec une égale vertu les provocations de Mlle Clémence. Celle-ci avait complètement renoncé aux hussards. Elle disait beaucoup de mal de l'armée et parlait d'administration avec caresse. Elle penchait les mines langoureuses vers ce petit blondin frais et joufflu et ne cessait de minauder à son entour d'une façon qui faisait valoir les raillements de ses yeux et l'avarie de son sourire. Et le petit Lagrange recevait à bout portant, sans sourciller, des phrases comme celle-ci. « Monsieur Ernest, si nous étions tous deux seuls en voyage, est-ce que vous me respecteriez ?» Il faut dire à son avantage qu'il ne l'encourageait en aucune manière. Il se contentait poliment de ne pas la décourager. Quant à M. Chef d'Or, il combinait ses travaux stratégiques et risquait de temps en temps un mot sur la reconnaissance qu'il aurait à son cher M. Lagrange, si celui-ci voulait bien disposer M. le préfet à son endroit, et même, ô faveur inestimable, décider ce haut fonctionnaire à venir visiter sa collection. Mais le petit Lagrange, qu'il avait depuis longtemps percé à jour dans ses manœuvres, s'amusait à le tenir en haleine. Il feignait de ne pas entendre ou de ne pas comprendre. Et un jour, après une tentative plus directe et plus pressante, il lui jeta tout à coup « Mais mon cher monsieur chef d'or, savez-vous que c'est très difficile ce que vous demandez là ? Vous êtes considéré comme un affreux réactionnaire, parfaitement, et je ne sais pas si le préfet... Moi-même, en venant ici, je me compromets beaucoup. « Oh, monsieur Lagrange !» s'exclama monsieur Sheldon avec saisissement. je proteste de toute mon énergie civique. Je suis respectueusement dévoué aux nobles institutions qui nous régissent, monsieur Lagrange. Je suis républicain Bien, bien, monsieur chef d'or, calmez-vous, je vous crois. Mais vous savez, l'opinion publique, enfin, je verrai, je ferai mon possible, répondit avec le plus grand sérieux ce petit gamin de Lagrange. Cependant que mademoiselle Clémence faisait des yeux pâmés, se disant que pour qu'il risquât de se compromettre ainsi qu'il le disait, il fallait qu'un doux appât l'attirât irrésistiblement vers la maison de la rue des Briquettes. Qu'eût-elle pensé, la maigre amoureuse, si elle avait entendu, le lendemain, ce misérable Lagrange racontant comiquement la scène à son camarade, le conseiller de préfecture, et aussi au préfet, à monsieur le préfet lui-même, qui s'en divertissait beaucoup. Monsieur Chef d'Or, qui connaissait la stratégie, ne se contentait pas de faire le siège de la préfecture. Il s'occupait en même temps d'affaiblir l'adversaire. Monsieur Chef d'Or se répandait partout par les salons. Il s'honorait de nombreuses relations, qu'il avait du reste obtenues par un habile subterfuge. Les familles nouvelles qui venaient s'installer dans la ville négligeaient à l'ordinaire de lui faire visite. Monsieur Chef d'Or ne pouvait pas, sans manquer à sa dignité, les aller saluer le premier. Que si pourtant, en raison de leur rang social, il avait le désir de frayer avec elle, il recourait alors au stratagème qu'il avait imaginé. Il les faisait circonvenir pour qu'elles ne manquassent point de venir visiter sa collection, qui est, leur disait-on, la plus grande curiosité du pays. Les gens venaient sans défiance visiter cette collection, comme on va visiter un musée, en laissant sa canne au vestiaire. Et c'était là que M. Chef d'Or les attendait. Il les recevait lui-même, leur faisait gracieusement les honneurs de toutes les merveilles qu'il avait su accumuler. 40 ans de science et de travail, mesdames, un flair de peau rouge et un peu de l'étoile de Bonaparte. Il ne leur faisait crédit d'aucun caillou, d'aucune explication, d'aucune anecdote. Il les arrêtait longuement devant la Fausta et devant le guerrier gaulois revêtu de ses armes, deux pièces uniques pour lesquelles le musée du Louvre et le British de Londres m'ont offert le prix d'une fortune, mais il me semblerait que je vends mes enfants. Cela durait toute une après-midi, qui n'allait pas sans un peu d'ennui et beaucoup de fatigue. Après quoi, M. Chef d'Or proposait à ses visiteurs de venir se reposer une minute au salon. Il insistait d'une façon qui fermait toute issue. Et quand les personnes vaincues entraient dans le salon Groseille, elles y trouvaient mademoiselle Clémence installée, pomponnée, qui les recevait avec sa grâce maigre et minaudante et les remerciait beaucoup de leur très aimable visite, une visite que quelques jours après, M. Chef d'Or, Ganté et sa demoiselle empanachée s'empressaient d'aller rendre. C'est ainsi que M. Chef d'Or pouvait dire avec certitude qu'il possédait de belles et innombrables relations. M. Chef d'Or, à l'ordinaire, était très exact au jour de ces dames. Il y fut plus attentif encore. Les visites ne lui étaient pas pénibles, car partout où il se trouvait, il avait l'air d'être installé. Il devait sans doute cela à l'assurance et à l'assiette de ses phrases. Il fit donc beaucoup de visites et on le rencontra dans tous les salons, causant, pérorant, arrondissant des gestes. Il émettait des théories scientifiques, contait de curieux épisodes et de temps à autre glissait sous le jardin de sa parole une allusion venimeuse à l'endroit de M. Quatrevent. Ses couleuvres étaient accueillies et réchauffées dans des seins abondants, car on tenait M. Quatrevent pour un sauvage et un libre-penseur. Il faisait profession de dédaigner l'église et les salons. Il s'isolait dans une retraite qui ne pouvait être que le repère de vices effrayants. Il s'était dérobé à toutes les masses matrimoniales que l'on avait tendues autour de lui. Et on disait qu'il dormait une grande partie du jour et qu'il veillait toutes les nuits. Cet homme-là était méprisable. Ce monsieur Shelford n'eut pas de peine à le discréditer. Cependant, M. Quatrevent, cloîtré chez lui depuis plusieurs mois, continuait à étudier patiemment l'inscription à laquelle il s'était attaché. Ayant appris l'hébreu, il avait reconnu que l'inscription mystérieuse n'avait rien à voir avec cette langue. Il fit diverses autres tentatives, l'une vers le sanskrit, qu'il étudia longuement, d'autres vers les signes cachés contre lesquels vieillissent les égyptologues, et dont ce lui fut une occasion de pénétrer les obscurs arcanes. Il travaillait jour et nuit avec acharnement, mais sa persévérance fut récompensée par un remarquable résultat, puisqu'il parvint à mettre au jour enfin la ténébreuse inscription. Celle-ci fut alors tout simplement une inscription latine où les consonnes seules étaient exprimées en très barbares et dégradés et où les voyelles étaient remplacées par des points. L'inscription reconstituée donna Johannes et il astro soliti virgo solet. Ce que M. Quatrevent traduisit aussitôt Jean et dans la constellation de la chaise, la Vierge est assise. M. Quatrevent se réjouit de ce succès, mais il ne s'en contenta point. Il chercha quelle pouvait être la signification de cette phrase, dont il remarqua tout de suite qu'elle était composée de 7 mots, et qu'un trait en zigzag était tracé entre les 2 lignes et dans le bas de l'inscription. Il eut soif de connaître la pensée qui s'était exprimée ainsi sur cette pierre, de retrouver l'auteur inconnu, l'époque et les circonstances. Et il reconnut alors la méthode inductive vers laquelle était incliné son esprit. Néanmoins, M. Chevedor n'avait pas encore reçu du petit Lagrange une bonne réponse. Il en concevait de l'amertume. « Êtes-vous mon ami ?» lui disait-il. « J'ose le croire, alors faites donc quelque chose pour moi. »« Je fais ce que je puis, » lui répondait cyniquement Lagrange. « Mais c'est très, très difficile. » Un soir, pourtant, il lui annonça. « Ah, monsieur chef d'or, je crois que dans quelques jours, vous serez content de moi. » Il parlait ainsi, pensant au télégramme chiffré, que le préfet venait de recevoir du cabinet du ministre de l'Intérieur. Il était dit dans ce télégramme qu'un jeune prince noir, neveu du roi de Mozambique, et qui parcourait actuellement la France pour en admirer la civilisation, arriverait prochainement pour visiter la ville. Et le préfet était prié de l'accueillir avec distinction. Le préfet chargea aussitôt son chef de cabinet d'escorter le petit prince et de le guider à travers les curiosités locales. Lagrange, qui tout en s'amusant à faire soupirer M. Sheldorf, pensait que tout de même il faudrait peut-être lui accorder quelques privautés, se dit « Ben voilà notre affaire, je lui amènerai le nègre !» Et il annonça cette nouvelle à M. Sheldorf, qui en manifesta une grande joie. Aujourd'hui, le petit prince arriva. Il se montra plein d'affabilité à l'égard de Lagrange, qui l'attendait solennellement sur le quai de la gare. Au bout de 10 minutes, il le prit familièrement sous le bras. Il ne connaissait pas le français, mais au cours de son voyage, il en avait déjà retenu 4 mots. « Mon vieux, chouette et zut, et cocotte ». Et il répétait constamment, avec un joli zézément, en tapant sur l'épaule de Lagrange avec beaucoup d'exubérance. L'après-midi, le prince et son guide se présentèrent à la rue des Briquettes. M. Chevedor les attendait au bas de l'escalier, comme il s'y est aux visites royales. Il s'était mis en habit et en cravate blanche. Il s'inclina jusque au sol. Quel honneur, monseigneur, pour moi et ma collection! Elle avait déjà reçu d'illustres suffrages, mais votre auguste présence ici est la plus haute récompense de ma vie, consacrée à la science et à l'humanité. » Le petit prince reçut ces paroles de bienvenue avec une incomparable majesté. Il avait vraiment un grand air de noblesse, et Lagrange constata avec satisfaction son attitude réservée et hautaine. Aussi fut-il un peu étonné lorsque, un moment après, comme Mademoiselle Clémence, parée d'une éclatante robe rouge, venait déployer une révérence de cour, il vit le petit prince lui prendre le menton en disant d'une voix aimable « Oh, cocotte !» Cet incident jeta un froid, sauf sur les joues de Mademoiselle Clémence, qui connurent le soleil africain. On avait préparé une brillante collation qui fut sèche pour les assistants, car le prince, à qui l'on présenta tout d'abord les plateaux, trempa son doigt dans les divers gâteaux et but un peu dans tous les verres. M. Chef d'Or observa que ses manières étaient le signe d'une éducation autocratique et contraire à nos mœurs. Quant à Mademoiselle Clémence, cela n'empêcha pas de lancer au neveu du roi de Mozambique ses œillades les plus incendiaires. Quand le prince parut restauré, M. Chef d'Or proposa « Monseigneur, voudrait-il maintenant visiter ma collection ?» À quoi le prince, qui avait bu toutes les flûtes de champagne, répondit en lui tapant sur l'épaule « Mon vieux, mon vieux !» Et il riait de son bon rire nègre qui ouvrait des clartés blanches dans sa face. Lagrange s'affligeait en constatant que la tenue de son noble compagnon commençait à se relâcher. Elle se relâchait visiblement. Le prince crachait de tous côtés sur le parquet ciré. Il ne prêta pas la moindre attention à la Fausta, non plus qu'au guerrier gaulois revêtu de ses armes. Il coupait à chaque instant des tapes sur l'épaule et le bon vieux retentissant les savantes explications de M. Sheldor. Il passa, sans vouloir s'arrêter, devant la reproduction en carton de la cathédrale de Reims. Par contre, ayant aperçu dans un coin une grande boule de verre colorée, comme on en met dans les jardins, il se précipita vers elle et l'examina passionnément. Quand il vit s'y refléter son image, il s'abandonna au transport d'un enthousiasme débordant. Penché devant la boule verte, il fit des grimaces diverses. Il tira la langue, fronça le nez, roula les yeux frénétiques. Puis il se frappait sur les cuisses en criant « Chouette, chouette !» et il crachait avec admiration. Monsieur Chef d'Or était attristé de cette barbarie. Il voulut enlever le prince à cette occupation d'ordre inférieur et le ramener vers des sujets plus dignes de son suffrage. « Si Monseigneur voulait me permettre, » disait-il avec une respectueuse fermeté. Monseigneur s'arracha avec regret au charme de la boule verte et le suivit vers des vitrines. Mais le front de Monseigneur s'était rembruni. Ce regard errait au loin. Où errent les regards lointains des Monseigneurs? Durant que M. Shelford lui donnait de minutieuses explications, tout à coup, un petit mot siffla entre ses dents, un preste mot zézayant qui ressemblait à « zut », et brusquement, sans prendre congé et sans ajouter une parole, il s'enfuit avec une rapidité telle que Lagrange n'eut que le temps de courir après lui et de le rejoindre dans la rue. M. Chef d'Or mena grand bruit autour de cette visite. Il la compara à celle que se plaisait à faire l'empereur Marc Aurèle chez les philosophes de Rome, ou qui, plus récemment, amenait Dom Pedro du Brésil auprès des lettrés et des savants européens. Il la produisit dans tous les salons d'une manière magnifique, en laissant dans l'ombre les quelques détails fâcheux qui pouvaient en amoindrir la dignité. et il prit soin de faire insérer dans tous les journaux du département un écho ainsi rédigé. Au cours de son récent passage dans notre chef-lieu, Monseigneur le prince Liliavo San Luares, neveu de Sa Majesté le roi de Mozambique, a exprimé le désir de visiter la collection de notre éminent concitoyen, M. Chevenor, dont la réputation a, comme on le voit, dépassé de beaucoup les murs de la cité. Il était accompagné de M. Lagrange, l'aimable chef du cabinet du préfet, qui remplit ses délicates fonctions avec le tact et la distinction que chacun sait. Le prince, avec un goût éclairé et une culture d'esprit que rend plus remarquable encore son jeune âge, a su apprécier à leur valeur les merveilles savamment découvertes et rassemblées par M. Chevenor. Il est vrai de dire que celui-ci est un guide et un commentateur comme on en trouve rarement. Le prince, s'exprime en français avec la plus parfaite aisance, et qui est même initié aux idiotismes de notre langue, a complimenté M. Chevenor de la façon la plus flatteuse et l'a assuré que cette visite resterait un des plus intéressants souvenirs de son voyage à travers l'Europe. Cet article et les commentaires de M. Chevenor produisirent dans la ville un effet considérable. Mais quelques jours après, qu'est-ce qu'on a appris ? Que le neveu du roi de Mozambique n'était qu'un simple aventurier qui avait fait de nombreuses dupes et qui venait d'être arrêté comme escroc. Ce fut un désastre. « Eh bien, dit M. Chevenor à Lagrange, je pense que vous me devez une honnête réparation. Non seulement j'ai dû subir des incongruités, mais voilà qu'aujourd'hui, tout le monde se moque de moi. Faudra pas moins que la présence du représentant du gouvernement dans ma maison pour la purifier du passage de cet horrible nègre. » Lagrange confessa qu'en effet, sa diplomatie avait produit des résultats fâcheux. Il affirma la pureté de ses intentions. Et dans un dessein d'amende honorable, il s'occupa sérieusement cette fois de négocier auprès du préfet afin que les désirs de M. Chevenor fussent enfin réalisés. Le préfet, excellent homme, ne fit du reste aucune difficulté. Et Lagrange put donner à M. Chevenor cette réponse. « Venez inviter, M. le préfet, à visiter votre collection. Il acceptera, c'est chose entendue. » Et il ajouta, « voilà une affaire que je crois habilement menée, mais je puis dire que j'en ai eu du mal. » M. Chevenor le pria à dîner pour fêter cet heureux événement. Lagrange fut abreuvé de vins ardents et des regards passionnés de Mademoiselle Clémence. M. le préfet vint à quelques jours de là. Il était accompagné de son chef de cabinet. Il apporta un visage souriant et des manières affables. Et il écouta avec complaisance les multiples boniments de M. Chevenor. Celui-ci en profita pour faire le grand étalage. « Oui, oui, » opinait M. le préfet de la tête. Et il souriait. Il paraissait très vivement intéressé. « Oui, 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 oui. » M. Chevenor était radieux. Il se trouvait cette fois en présence d'un auditeur digne de lui, qui savait comprendre et apprécier toutes les nuances de sa parole. Aussi la fait-il jouer sous tous les reflets, évoluer sous toutes ses faces. Il fit un sort à chacune des pièces de sa collection, tout en n'oubliant pas de dresser en pleine lumière, sur un piédestal étincelant, la Fausta, et le guerrier gaulois revêtu de ses armes. Alors, il fut admirable. Il s'épandit en aperçus biologiques, numismatiques, archéologiques, philologiques et sociologiques, en anecdotes piquantes, en une vision générale de philosophie et d'histoire, d'où il apparaissait clairement que ces deux pièces inestimables faisaient partie du trésor sacré de l'humanité. Ce furent des cours vraiment dignes de la chaire du Collège de France. Et monsieur le préfet écoutait toujours, souriait toujours, opinait avec grâce. En vérité, quel homme charmant c'était, et de quelle finesse intellectuelle. M. Scheffner fut conquis à ce point qu'il résolut de faire en sa faveur un inhabituel sacrifice, et qu'au moment du départ, il lui dit « Monsieur le préfet, laissez-moi vous prier d'emporter un souvenir de cette visite. » Il lui offrait cela beaucoup par habileté, parce qu'il espérait ainsi engager le préfet dans les liens de la reconnaissance et lui créer des obligations réciproques à son égard, mais un peu aussi parce qu'il avait été vraiment séduit par son amabilité et sa compréhension pénétrante. Car il y a toujours une part de sincérité dans les actions des hommes. Monsieur le préfet se défendit. « Mais du tout, mon cher monsieur chef d'or, du tout, oui, j'ai pas besoin de cela pour me rappeler. Permettez, insistait monsieur chef d'or, j'y tiens beaucoup. Veuillez choisir. » Et il l'attirait vers des vitrines médiocres. Alors Lagrange fut frappé d'une inspiration diabolique. « Monsieur le préfet, dit-il, comme je connais votre assez bien la collection de monsieur Cheffort, voulez-vous me permettre de conseiller votre choix ?»« Oh, très volontiers, mon ami. » Lagrange parut chercher les yeux, puis s'arrêtant devant une vitrine. « Tenez, monsieur le préfet, voici une petite pièce de monnaie que M. Scheffner sera certainement très heureux de vous offrir. » M. Scheffner vint regarder ce que Lagrange désignait du doigt. Tout aussitôt, il devint pourpre et manqua de jeter un grand cri. « La Fausta !» Le doigt de Lagrange indiquait la Fausta. « Oh, le misérable, misérable traître !» Mais M. Scheffner se rassura dans cette pensée que M. le préfet, qui connaissait la valeur de la pièce, n'aurait garde de la choisir. Aussi reçut-il comme un coup de massue lorsque M. le préfet répondit avec son plus gracieux sourire. « Eh bien, c'est cela. Puisque vous voulez bien insister, mon cher M. Scheffner, ceci me plaît tout à fait. Et j'espère que son absence ne débarrera pas votre collection. » Mais comment ? Mais il y avait erreur, monsieur le préfet ne se rendait pas compte. C'est la Fausta, monsieur le préfet, ne put que dire monsieur Scheffner, étranglé par l'émotion. La Fausta, parfaitement, répondait le préfet. Dont je vous ai parlé, ajoutait monsieur Scheffner, dans le suprême espoir que monsieur le préfet enfin rappelé à la notion des choses. « Reculerait devant ce sacrilège. » Mais le préfet ne se démontait pas. Toujours charmant et souriant, il s'obstinait dans sa décision spoliatrice. « Parfaitement, oui, donc vous m'avez parlé. Oui, je sais. C'est fort joli, oui, fort curieux. Je la ferai monter en épingle de cravate. » M. Scheffner se désolait, il pensait « Mais c'est l'invasion des barbares !» Et ne faisait pas moins qu'assimiler M. le préfet à ces dévaliseurs d'églises et des tombeaux. Mais M. Scheffner était aveuglé par son indignation et sa douleur. M. le préfet n'avait point une âme si noire. M. le préfet était simplement un écouteur remarquable, qui, dans l'obligation de subir de nombreuses harangues officielles et de longs exposés administratifs, s'était habitué à sourire, acquiescer aux bons endroits, lorsque la voix de l'interlocuteur s'enflait, et à simuler une attention profonde et un vif intérêt. Mais en réalité, de tout ce que M. Scheffner avait si magistralement développé, M. le préfet n'avait pas écouté, n'avait pas entendu un seul mot. Et c'est ainsi qu'il s'empara de la Fausta avec sérénité, parce qu'ayant considéré que c'était tout petit, il avait jugé qu'il pouvait l'accepter sans montrer de l'indiscrétion. À la suite de cette aventure, M. Scheffner resta plusieurs jours plongé dans la douleur. Il baissa les rideaux sur ses fenêtres et déclara à sa fille, éplorée, qu'il chasserait cet infâme Lagrange si celui-ci avait le front de repasser leur seuil. Mais il se calma peu à peu en songeant que le préfet, après l'avoir ainsi dépouillé, il ne pourrait pas manquer de lui faire obtenir les palmes académiques, et que par là il aurait quelques compensations. Il se rasséréna à cette pensée. Il reprit goût à la clarté de la lumière et au sel de la vie. Quand, un matin, comme il ouvrait le journal en soufflant sur sa tasse de chocolat trop chaud, il lut « Un mouvement administratif doit être signé aujourd'hui. Il comprend la nomination de notre préfet dans un autre département. » De ce coup-là, M. Chefdor se mit au lit avec la fièvre et perdit beaucoup de cheveux. Néanmoins, M. Chefdor connut un heureux lendemain. Le préfet avait pris soin, avant son départ, de le recommander au ministère. Et quand fleurirent les violettes orgueilleuses de janvier, M. Chefdor fut décoré. Cela produisit dans la ville un effet considérable. La réputation de M. Chefdor s'en trouva officiellement consacrée. Il reçut de toutes parts des visites et des télégrammes. Et les sociétés savantes du département se réunirent pour lui offrir un banquet. M. Chefdor y prononça des paroles inoubliables. Ovation prolongée. Quelques temps après, M. Quatrevent sortit enfin de sa demeure où il était cloîtré depuis près d'une année et fit une communication à la société polymatique. Il exposa comme quoi il avait trouvé une pierre auprès de la fontaine Sainte-Eustase sur l'emplacement d'un ancien couvent démoli pendant les guerres religieuses de la fin du XVIe siècle. Il développa les reçus et les recherches par lesquels il était parvenu à en déchiffrer l'inscription « Johannes et Inastro Solis Virgo Sedet » « Jean est dans la constellation de la chaise, la Vierge s'est assise. » Mais cette phrase énigmatique, que signifiait-elle? Et c'est là que M. Quatrevent faisait apparaître la solidité de sa dialectique et la culture de son esprit. Il observait d'abord les rapports qu'on en pouvait établir avec un passage de l'Apocalypse de saint Jean, au chapitre 12, verset 1er, ainsi conçu. Et un grand signe parut dans le ciel, savoir une femme revêtue du soleil et qui avait la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et il faisait remarquer ensuite que l'inscription était composée de 7 mots, et il se reportait alors à un autre passage du même livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 1, où il est dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône du livre un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » M. de Quatrevent établissait une correspondance frappante entre ce passage et la forme de l'inscription. Les 7 mots se rapportaient aux 7 sceaux. Et le trait en zigzag qui enfermait la seconde ligne de l'inscription, en laissant au dehors la première, correspondait au livre écrit en dedans et en dehors. Et comme ce passage de l'Apocalypse annonce à ceux qui sont en détresse le triomphe prochain de l'agneau, M. Quatrevent voyait dans l'inscription la manifestation d'une détresse et d'un désespoir. Et cela était déjà un éclaircissement. D'autre part, M. Quatrevent avait découvert que l'astronome danois, Tycho Brahe, parle d'une étoile particulièrement brillante qui aurait été remarquée vers la fin du XVIe siècle dans la constellation de la chaise. L'apparition de cette étoile aurait, d'après Humboldt, causé chez les populations une extraordinaire émotion pour les signes et les présages divers qu'on y vit. Et la phrase inscrite sur la pierre recevait de ce fait une lumière singulière. Et dans la constellation de la chaise, la Vierge est assise. C'est ainsi que, en rapprochant ces divers éléments, les événements historiques, les phénomènes astronomiques et les passages apocalyptiques, M. Quatrevent parvenait, avec une érudition et une sagacité merveilleuses, à reconstituer la signification de l'inscription à l'étude de laquelle il avait pendant un an attaché l'effort de son esprit. Il concluait qu'un moine du nom de Jean, Johannes, comme était écrite l'inscription, chassé du couvent en ruine, avait ainsi exprimé, sur une des pierres écroulées, son indignation contre les démolisseurs hérétiques et son espoir du prochain triomphe de la foi. Cet espoir était appuyé sur le phénomène céleste apparu vers la même époque que M. Quatrevent fixait vers l'an 1587 et qui correspondait aux prophéties de l'Apocalypse. M. Quatrevent démontrait cela d'une manière lumineuse et il intitulait son étude « Le cri d'un vieux moine ». Mais il n'eut pas un grand succès. Jean Madeline.